Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, et si l'homme était une salamandre comme les autres, un animal qui pourrait perdre un membre et le faire repousser ? Cela vous semble incongru ? Eh bien pourtant, chercheurs, médecins et chirurgiens travaillent au développement d'organes autoconstruits. Un mot un peu barbare pour dire qu'ils s'attellent à régénérer une partie d'un organe malade avec des cellules neuves injectées dans l'organe. Bientôt, nous pourrons soigner un rein, un foie, des poumons, par le processus suivant. Tout d'abord, la destruction de l'ensemble des cellules d'un foie, d'un rein, de poumon, en injectant une solution de détergent biologique pour ne conserver que la structure extracellulaire. Et puis, dans un second temps, les médecins réalisent une injection de cellules toutes neuves dans l'organe pour reconstruire un tissu sain. Enfin, il ne reste plus qu'à replacer l'organe dans sa matrice, il est soigné. De la science-fiction, on passe petit à petit à la réalité. Car souvenez-vous de la première mondiale, en avril 2011, de la transplantation de bronches réalisée par le professeur Emmanuel Martineau, venu d'ailleurs en parler au studio de Canal Académie, et il utilisait déjà le système d'organes autoconstruits. Quelles sont les étapes à franchir pour d'autres organes, tels que le foie, le rein ou encore le cœur ? C'est ce que nous allons voir en compagnie de nos deux invités, Henri Bismuth et Dominique Franco. Bonjour.
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 Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Pour vous présenter, Henri Bismuth, vous êtes président de l'Académie nationale de chirurgie, précurseur et expert international reconnu dans le domaine hépato-biliaire. Vous avez été l'un des rares chirurgiens dans le monde et parmi les premiers en France à lancer un programme de transplantation hépatique. Vous officiez à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Dominique Franco, vous êtes professeur des universités Paris-Sud, Paris 11, à la faculté donc de médecine, chef de service de chirurgie digestive et viscérale à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Et vous avez donc une unité de recherche INSERM, unité 972, et vous travaillez sur les cellules souches. Nous allons donc plus nous focaliser sur les transplantations du foie, puisque c'est votre spécialité à tous les deux. Mais avant toute chose, entre la transplantation de bronches réussie et pourtant très complexe, donc transplantation réalisée par le professeur Martineau, et puis la régénération de tissus comme la rétine ou encore la peau, puisque très récemment, une équipe de biologistes de l'Université de Montpellier a démontré qu'il était possible de rajeunir des cellules de la peau provenant de personnes âgées de plus de 90 ans en les reprogrammant, ces cellules. Est-ce que tout cela signe les débuts d'une révolution médicale où, en reprogrammant des cellules, le corps finit par se soigner tout seul pour aller vite ? Henri Bismuth.
Le terme révolution n'est peut-être pas suffisant, en fait, on va aller beaucoup plus loin. Regardez la transplantation d'organes. En quoi consiste ? À enlever l'organe d'un défunt et à l'introduire à la place d'un organe malade dans un autre individu. Lorsque j'ai commencé la transplantation, il faut reconnaître que j'ai rarement dit cela, mais cet acte est en fait terrible. Car il est terrible sur le plan biologique, car il réalise un véritable viol de l'identité d'un individu. Vous savez, tout notre organisme est extrêmement vigilant sur tout ce qui est à l'étranger. Il se défend, il a des multiples sources de défense, et c'est même ce qui le caractérise. Il y a une très belle phrase de Claude Bernard qui dit « La vie n'est rien d'autre que la défense contre la mort ». Et c'est tout à fait remarquable, car il y a en permanence cette sorte d'attaque que nous subissons. Or, la transplantation d'organes est une attaque majeure, puisqu'on va introduire, non pas des cellules, mais un organe entier dans un organisme, donc un corps étranger. Et c'est la raison pour laquelle il a fallu longtemps pour arriver à faire accepter cet organe. Et nous avons heureusement, je dis bien heureusement, mis au point des traitements de façon à diminuer les défenses immunitaires et à faire accepter cet étranger par l'individu. Mais cet acte reste un acte complètement anormal. Lorsque l'on parle aujourd'hui d'organes autoconstruits, on va, je dirais presque, vers l'acte naturel, puisqu'on va prendre des cellules adultes, c'est le projet, faire les dédifférencier pour qu'elles reviennent à l'état tout à fait initial de leur différenciation pour les refaire devenir des cellules adultes d'un organe quelconque, du foie, du rein, du poumon. Et donc on va reconstruire, je dirais de façon naturelle, car c'est comme ça que nous sommes nous-mêmes nés, comme nous sommes formés, on va refaire un organe. Et vous voyez la différence de processus dans la transplantation hépatique qui est un organe de l'extérieur qu'on va introduire de force, j'ose dire, dans un autre, alors qu'ici, on va tout reprogrammer. Mais ce n'est pas facile.
Alors justement, c'est ce qu'on va voir ensemble. Dominique Franco, est-ce que justement, comme le dit Henri Bismuth, c'est en fait pour répondre, ces organes autoconstruits, c'est une solution pour répondre à ce problème de rejet, en fait, de transplantation d'organes?
Oui, c'est pour répondre à deux problèmes, en fait. Celui du rejet, d'abord, qui est assez facile à maîtriser dans la transplantation du foie, mais qui néanmoins est une des difficultés de la transplantation, à court et à long terme. Et puis aussi, cela permet éventuellement de pallier le déficit en organes pour la transplantation, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de patients qui sont en attente de transplantation, qui n'en auront jamais et qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'organes. Et ce procédé de foie autoconstruit devrait permettre de pallier à ce déficit en organes pour la transplantation. Je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué et qu'Henri Bismuth a repris, c'est que la révolution, c'est d'avoir compris que la progression des cellules ne se fait pas dans un seul sens, c'est-à-dire depuis la cellule souche vers la cellule complètement mature et bien définie, mais qu'on a réussi à faire parcourir aux cellules le sens inverse, c'est-à-dire de la cellule complètement mature et définie vers la cellule souche éventuellement pluripotente. Et donc ça, c'est d'abord, c'est formidable d'avoir réussi à découvrir ça, cette plasticité de la cellule qui n'est jamais un objet fini. Et c'est ce qui permet de l'utiliser maintenant dans beaucoup d'étapes de la reconstruction.
Vous parlez donc de la transplantation qui, petit à petit, va être alors remplacée par ces organes autoconstruits. Est-ce qu'à terme, ça va signer la fin de ces banques de dons, Henri Bismuth?
À terme, en effet, c'est en tout cas, je dirais, l'objectif et peut-être un peu le rêve, c'est d'avoir la possibilité, lorsque un organe est malade, de pouvoir le remplacer et le remplacer par les propres cellules du patient. Donc, il n'y aura plus de problème de rejet, c'est son propre organe que l'on va refaire. En disant cela, nous sommes à la phase ultime. Les stades sont encore nombreux pour arriver à cela. Nous en sommes encore aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, qu'à une étape très primitive, c'est-à-dire qu'on essaye déjà d'avoir des cellules du tissu qui nous intéresse. Je veux prendre l'exemple du foie. C'est un grand problème en matière de pathologie du foie. Nous n'avons pas les cellules hépatiques, par exemple. Les cellules hépatiques fonctionnant, nous ne pouvons pas les avoir en culture. Car si on essaye de mettre du tissu hépatique en culture, au bout de quelques divisions, il va se transformer en la cellule initiale, qu'on appelle le fibroblaste, mais qui n'a plus de fonction hépatique. Donc on n'a même pas cela. Pourquoi? Parce que la première étape, puisqu'on parle d'étape, la première étape que nous aimerions avoir, c'est d'avoir des cellules hépatiques que l'on pourrait charger dans un appareil extérieur. C'est ce qu'on appelait l'organe bioartificiel. Une partie est artificielle, une partie est biologique. Les cellules représentent la partie biologique et l'organe artificiel, par exemple le foie, ça pourrait être un filtre. On fait un filtre comme un rein artificiel, mais le rein ne fait que filtrer des liquides. Tandis que là, il nous faut plus, il nous faut une synthèse. Donc un filtre dans lequel on mettrait des cellules hépatiques et donc le sang du patient passant dans ce filtre avec des cellules hépatiques, il y aurait une sorte de fonction hépatique qui viendrait suppléer son organe défaillant. Donc voici une étape que l'on vise, qui est encore très loin de l'organe complet autoconstruit, mais on sait donc qu'il y a des étapes. Et cette étape est une étape qui n'est pas très déraisonnable d'espérer avoir bientôt.
Effectivement, vous parlez du foie à juste titre, puisque tous les deux, c'est votre spécialité. Justement, intéressons-nous plus particulièrement à ces études. Je crois que c'est l'organe sur lequel on maîtrise le plus de choses en matière justement d'organes autoconstruits. Les études ont commencé dans les années 70 dans le cadre de la thérapie cellulaire. Est-ce que c'est justement cet obstacle-là, Henri Bismuth et Dominique Franco, qui aujourd'hui limite les premiers essais cliniques, puisqu'actuellement on fait des recherches sur les petits animaux? Qu'est-ce qui limite encore les essais cliniques, Dominique Franco?
Il faut peut-être refaire un peu d'historique sur ce qu'est la thérapie cellulaire. L'objectif était effectivement, à partir de cellules isolées, de réparer un organe, pas de reconstruire, mais de le réparer. C'est-à-dire, il y avait un organe dont les cellules étaient malades, on injectait des cellules normales dans cet organe malade et ça permettait d'assurer un certain nombre de fonctions. Vous avez raison de mentionner les années 70, puisque le premier essai chez le rat a été effectué chez des rats qui avaient une jaunisse parce qu'ils n'avaient pas de cellules ayant les enzymes permettant d'éliminer la bilirubine, qui est le pigment qui donne la jaunisse. Et en injectant ces animaux des cellules normales, on s'est aperçu qu'on guérissait la jaunisse. On a cru à ce moment-là qu'on tenait entre les mains un traitement absolument formidable des maladies du foie. Force est de constater que près de 40 ans après, on a beaucoup de mal à appliquer cette technique à l'homme, parce que la transplantation d'hépatocytes pose un nombre de problèmes qui ne sont pas encore résolus. La masse de tissus à transplanter, la possibilité pour les hépatocytes, pour les cellules qu'on injecte, de franchir les différentes barrières du foie permettant d'accéder au travail hépatocytaire où elles pourront se diviser et travailler. La capacité pour ces cellules transplantées de se diviser suffisamment pour réussir à compenser le déficit de l'organe. Donc il y a vraiment beaucoup de problèmes qui n'ont pas été résolus avec les cellules hépatiques, comme cela a pu l'être avec d'autres types cellulaires. Et c'est une des raisons pour lesquelles actuellement la thérapie cellulaire dans les maladies du foie s'oriente plutôt vers l'utilisation de cellules souches que de cellules matures, parce qu'au moins celles-là sont plus résistantes et ont la capacité de se diviser, et puis de façon ultime vers l'organe autoconstruit qui permet de pallier toutes les difficultés que j'ai mentionnées sur la thérapie cellulaire.
Alors venons-en justement à cet aspect concret. Je le disais en préambule comme une recette, hein, comment faire pour réaliser un organe autoconstruit. Si vous voulez, abordons la partie concrète. Il y a une partie de décellularisation, ouf, j'ai réussi à le dire, et de recellularisation. Pourriez-vous nous dire, Henri Bismuth, en quoi cela consiste ?
Pour faire un organe, il faut qu'il y ait une structure, on appelle ça une matrice, sur lequel on mettrait les cellules. Alors, cette matrice peut être de plusieurs origines. Il peut s'agir d'une matrice synthétique. On peut très bien faire une sorte de moule fibrineux dans lequel on viendrait mettre les cellules. Donc, on a besoin déjà d'une sorte de squelette sur lequel cela viendrait se faire. Prenons des exemples plus simples. Une oreille, par exemple. Vous voyez une oreille ou un nez. Il y a un tissu cartilagineux. On peut très bien imaginer qu'on prend un squelette, pas du cartilage, mais de fibrine, et ensuite on viendrait mettre la peau dessus. Donc on peut reconstituer comme ça un organe très simple, mais on a besoin d'avoir cette sorte de moule, ce squelette qui viendrait se faire. Alors, en matière de foie, ce squelette peut être donc un squelette, je dirais, artificiel, qu'on construirait, ou peut être, et là c'est une deuxième hypothèse tout à fait différente, peut être un squelette existant. On peut prendre un foie sans qu'on dise d'où il vienne encore. C'est-à-dire que ça peut être un foie d'un animal. Après tout, on a besoin de cette... Et dans ce cas-là, est-ce qu'on aura seulement que le squelette ? Est-ce qu'on pourra garder les structures vasculaires, biliaires, qui sont à l'intérieur du foie ? Si on les garde, il va falloir, elles aussi, les recelluliser, parce qu'elles sont couvertes également de cellules, avant de mettre la cellule principale du foie, qu'on appelle l'hépatocyte, c'est-à-dire celle qui fait la fonction du foie. Le foie n'est pas uniquement constitué. Il y a d'autres cellules qui font partie du foie. C'est un terme un peu savant, cellules de Kupffer. C'est des sortes de cellules qui viennent entre les cellules hépatiques, que je ne sais pas comment le dire simplement, mais jouent leur rôle.
Des régulateurs, sorte de régulateurs de ce qui se passe.
Voilà, c'est ça. Alors, une des difficultés qu'il y a en ce qui concerne cette sorte de combinaison, c'est que lorsque l'on travaille, je dirais, en dehors de l'organisme, pour faire à partir des cellules souches, pour arriver à des cellules de foie, eh bien, ces cellules de foie, elles ne sont pas bien, parce qu'elles ne sont pas dans leur milieu. Et donc, il va falloir également faire en sorte que les cellules hépatiques deviennent hépatiques par interférence avec les cellules qui les environnent. Il y a donc... On appelle ça la niche, c'est-à-dire que la cellule est bien lorsqu'elle se trouve dans son environnement, qui est un environnement naturel. Donc ça aussi, c'est une autre étape, voyez-vous. Donc il y a l'étape d'avoir la cellule hépatique à partir de la cellule souche. L'étape, pour que cette cellule hépatique fonctionne bien, il faut qu'elle soit dans un environnement naturel, qui ne se voit que dans l'organisme. Et enfin, il y a le squelette. Alors évidemment, vous allez voir qu'on peut arriver en disant, ben, le squelette, on peut prendre un squelette d'un foie humain, par exemple, une partie d'un foie humain, et on peut laisser la cellule déjà se développer au contact même de l'organisme. D'où l'idée, là on est complètement, on se projette dans l'avenir, hein, ce sont des hypothèses, d'où l'idée de dire on va prendre une partie de foie, qu'on va décelluliser, c'est possible, le foie de l'homme se divise en deux, en trois même, on peut très bien en prendre une partie, et à ce moment-là, mettre les cellules qui, au contact du sang, au contact de l'environnement, qu'il a des facteurs de croissance propres de l'individu qu'il va recevoir, vont reprendre leur fonction. Voilà, exactement. Mais ce que je dis semble simple, mais chaque mot est un point d'interrogation.
Donc en fait, on a un organe, un bout d'organe qu'on va développer et qu'on va remettre après dans le corps humain.
C'est un des développements possibles. Mais dans certaines maladies, il faut enlever tout l'organe aussi. Donc vous voyez, je crois qu'il faut avoir l'esprit très ouvert. Vous disiez tout à l'heure, ça va remplacer totalement la transplantation. Je crois que non. Je crois qu'il faut, il y aura la transplantation qui va rester pour certains organes, pour certaines maladies, l'organe autoconstruit pour d'autres maladies. Je crois qu'on va pas tout remplacer d'un seul coup. Ça me paraît important. Et je voulais revenir sur un point qui me paraît très, très joli dans la démonstration, c'est que avant d'arriver à ce concept d'organe autoconstruit à partir de la trame de l'organe lui-même, tous les chercheurs qui travaillent sur la cellule souche, peu à peu, on constatait que si on mettait un milieu proche du milieu naturel, la cellule se développait mieux ou s'orientait vers une différenciation qui était vraiment déterminée par ce qu'on mettait. Et puis deuxièmement, que faire pousser une cellule en tridimensionnel, ça permettait d'avoir une croissance bien meilleure, une division meilleure et une différenciation meilleure aussi. Et donc, avant d'arriver au concept du scaffold, de l'échafaudage de l'organe lui-même, on avait compris qu'il fallait des protéines spécifiques et puis un agencement dans l'espace qui permettait à la cellule de se développer. Et c'est après qu'est arrivé ce concept, pourquoi ne peut-on pas utiliser l'organe lui-même pour refaire pousser les cellules. Donc, je pense que c'est un joli travail de recherche avec la réunion, comme toujours, de la bio-ingénierie, de la culture cellulaire et des cliniciens qui sont vraiment attelés à montrer cela.
Alors, on parle de cellules, ce sont des cellules souches, pluripotentes ou cellules souches embryonnaires. Je pose la question volontairement. Je sais que les cellules souches embryonnaires en France, on ne peut pas travailler dessus.
Non, si vous voulez, si on vise cet objectif ultime, moi j'aime bien projeter très loin parce qu'au moins on a une ligne. Voilà. Et là, je fais une parenthèse. Lorsqu'on organisait cette séance à l'Académie de médecine et de chirurgie, c'était pour prendre position dans le domaine de la transplantation d'organes et pour dire où allons-nous. Parce qu'en fait, il y avait plusieurs hypothèses. L'hypothèse de l'organe artificiel. Bon, en matière de foie, ça ne... Je ne sais pas, je pourrais revenir dessus tout à l'heure. Ce n'est pas possible.
En matière de cœur, par contre, c'est en cours.
Voilà, c'est ça. Donc, ça dépend des organes. Il faut dire également qu'en matière de rein, ça existe déjà. Alors que pour certains organes... Mais là, c'est un autre sujet. Mais on en parlera si vous voulez. Parce qu'une des voies possibles était la transplantation d'organes animaux, qu'on appelait la xénogreffe. Et il y a une dizaine d'années, il y avait des programmes de recherche, il y a même eu une application clinique dans les années 90, il y a plus longtemps que ça. Mais d'abord, il y a un problème immunitaire majeur. L'animal le plus proche de nous...
Le porc
est... Non, c'est le chimpanzé. Ah, c'est quand même...
C'est qu'on travaillait sur le porc pour les organes.
Mais... Oui, c'est ça, vous avez raison. Mais le plus proche, c'est quand même le chimpanzé. Mais c'est intouchable, je dirais même volontairement, nous ne voulons pas...
Vous parlez d'éthique.
Oui, nous ne voulons pas, on a exclu ça automatiquement, personne n'envisage cela. Donc on s'est rapproché d'un animal qu'on connaissait bien, le porc, mais qui est très loin de nous en ce qui concerne la tolérance, et on est très très loin. Alors évidemment, il est bon, en ce qui concerne le foie, ça pourrait être un bon animal... parce qu'il est omnivore, donc il a la même nourriture que nous, et puis on le connaît très bien, puisqu'on l'élève depuis très, très longtemps. Ce n'est pas un animal sauvage, si vous voulez, donc c'est un animal qu'on connaît bien. Mais on en est très loin. Et alors, surtout, on s'est aperçu la chose suivante, puisqu'il y a eu deux applications cliniques qui ont eu lieu dans les années 90. Il y a eu deux patients aux États-Unis qui ont été transplantés avec des foies de babouin. Et donc, on était encore un peu plus près, pas le chimpanzé, mais enfin le babouin. Mais ce qui est apparu, c'est qu'en dehors des problèmes de rejet, qui ont été plus ou moins bien contrôlés, c'est que le foie du babouin avait un métabolisme de babouin. Mmh. Et donc, il a fait du babouin. Et donc, en matière de foie, ce n'est pas possible, parce que, vous savez, chaque espèce animale a ses propres déficits, ses propres... On pourrait arriver à des déficits, même des maladies très graves, ne serait-ce que sur le plan métabolique. Je ne parle pas des problèmes infectieux ni viraux, parce qu'il y a trois problèmes. Il y a le problème de tolérance... Comment arriver à le faire accepter sur le plan d'immunologie? Deuxièmement, un problème infectieux, et le singe fait très peur, parce qu'on ne sait pas quel virus il peut cacher, on ne le sait pas. Et enfin, le dernier, c'est la fonction. Alors si en matière de cœur, cette fonction n'est pas très conséquente, ce problème de fonction n'est pas très conséquent, puisque le cœur, c'est une pompe. On peut très bien imaginer qu'une pompe, si on arrive à régler la pompe pour faire un cœur, à partir d'un cœur animal, pour faire un cœur humain, c'est imaginable. Mais pour un foie, on voit mal comment on peut dévier le laboratoire, car le foie est le laboratoire. On peut le dévier pour faire en sorte qu'il construise des protéines humaines. Là, c'est un obstacle majeur. Donc, on écarte aujourd'hui, pratiquement, on écarte, en tout cas de façon certaine pour le foie, on écarte l'animal.
Mais par contre, donc, on se recentre sur les cellules souches.
Voilà.
Pluripotentes, embryonnaires, Dominique Franco.
Oui, il y a beaucoup de cellules souches, on en découvre tous les jours. En fait, quand on régresse dans la maturité d'une cellule, on a des cellules de moins en moins différenciées jusqu'à arriver à la cellule souche pluripotente. Alors l'exemple même, effectivement, c'est la cellule souche embryonnaire, puisque là, vraiment, on est au stade des cellules initiales qui ont en elles toutes leurs capacités évolutives, mais qui ne sont pas actuellement, d'un point de vue éthique, utilisables, sauf pour quelques travaux très restreints. Et puis ensuite, donc, il y a d'autres types de cellules souches qu'on peut trouver dans l'organisme, en particulier les cellules souches mésenchymateuses qu'on peut récupérer à partir d'un certain nombre d'organes et qui, bien que n'étant pas pluripotentes, peuvent d'abord être dédifférenciées vers des cellules encore plus souches et puis surtout être redifférenciées à partir de leur état vers des cellules matures. Donc un des objectifs pour l'instant de toute cette recherche est de savoir quelle est la cellule qui offre le meilleur rapport qualité-prix, si je dirais. Il n'est pas trop difficile de travailler avec, on peut se la procurer, il n'est pas nécessaire de la cultiver trop longtemps pour l'avoir, et on peut quand même l'orienter vers ce qu'on veut. Donc là, il y a vraiment tous les travaux qui sont faits actuellement s'adressent à cette problématique. Quelles cellules souches, au pluriel, vont-on utiliser pour repeupler un organe ?
Donc il y a les limites physiques, on va dire, et puis il y a les limites éthiques aussi, puisqu'on ne fait pas n'importe quoi. Alors on a beaucoup rêvé avec vous, et il faut quand même préciser qu'en matière d'organes tels que le cœur ou le rein, les études sont encore moins avancées que pour le foie, Dominique Franco.
Oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est des organes qui, théoriquement, sont plus simples. Le rein, c'est un organe qui a une fonction qui n'est pas très complexe, et le cœur aussi a une fonction de pompe qui n'est pas très complexe. D'ailleurs, chez l'animal, on a produit des cœurs autoconstruits dont le rythme, d'ailleurs, peut être déjà contrôlé par des médicaments. Néanmoins, il apparaît difficile pour l'instant de produire un cœur entier pour le transplanter. C'est la raison pour laquelle le professeur Ménachet pense qu'on produira des morceaux de cœur, en particulier les valves, peut-être de l'aorte initiale. Voilà. Donc, l'objectif pour les chirurgiens cardiaques est plutôt vers cette orientation. Le foie est un organe compact, c'est vraiment tout est compris dans une enveloppe et on ne peut pas différencier beaucoup les fonctions. C'est la raison pour laquelle on va avoir à produire des foies entiers. Et ce qui a été montré pour l'instant donc chez le petit animal, c'est qu'effectivement, on était capable, en un nombre de semaines assez restreint, à partir de la trame décellularisée dont nous parlions tout à l'heure, de produire un organe complet. Et en plus, transplantable. Il y a déjà des travaux chez le rat qui ont montré qu'on pouvait transplanter cet organe. Alors bien sûr, pour des durées pour l'instant qui sont tout à fait limitées, c'est en termes d'heures ou de 2 heures. Néanmoins, c'est faisable. C'est-à-dire ce qu'on sait en particulier, c'est que la trame vasculaire qu'on a obtenue est suffisante pour qu'on puisse faire des anastomoses avec les vaisseaux du receveur. Voilà, donc le foie, effectivement, est arrivé à un moment assez évolué dans cette recherche.
Alors, on arrive au terme de notre émission. Dernière question. On a commencé par les patients, en fait, les personnes qui seraient concernées. On parlait de la liste des personnes qui attendent un don d'organes. Aujourd'hui, même plutôt demain, puisqu'on parle plutôt de l'avenir, combien de personnes pourront être concernées par ces organes autoconstruits en France? Parce qu'on ne va peut-être pas parler des chiffres dans le monde, Henri Bismuth.
Oui, non, mais aujourd'hui, il faut être clair, il ne faut pas donner d'espoir qui n'existe pas. Aujourd'hui, tout ce que nous disons, ces organes autoconstruits, pour moi, excellentes solutions dans l'avenir, sont encore dans le laboratoire. Donc on est très loin même d'une application expérimentale animale.
Et pour ce qui est des bronches, par exemple, c'est déjà en cours. Pour les bronches, c'est déjà fait.
Oui, ce n'est pas un organe, c'est un morceau de tissu, c'est un peu différent. Mais je pense que, c'est ce qu'on avait dit également à la séance de l'Académie de chirurgie, aujourd'hui, la transplantation d'organes doit rester, escaler, il faut
pas de concurrence.
Susciter. Non, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de concurrence. Je crois qu'il ne faut pas donner de faux espoirs en disant ça va arriver. Comme je l'ai dit, ça permet d'orienter les recherches, mais aujourd'hui, il faut rester toujours très vigilant, faire en sorte qu'il y ait le plus de transplantations d'organes possible avec les organes dont on dispose. C'est tout ce que l'on peut espérer, qu'il y ait donc une bonne motivation de la population, que personne ne se démotive en disant à quoi ça sert, puisque bientôt on aura des organes autoconstruits qui viendront du laboratoire, etc. Non, je crois qu'il faut être clair. Aujourd'hui, nous restons toujours dans le même domaine. Mais il y a une porte que l'on voit, elle n'est pas ouverte, mais on la voit. Il y a peut-être un ray de lumière qui apparaît et on sait qu'on va aller dans cette direction.
Eh bien, merci à tous les deux d'être venus nous voir. Vous avez parlé, Henri Bismuth, plusieurs fois de la séance de l'Académie de chirurgie. Donc, je rappelle que cette séance avait lieu le 12 octobre 2011 et s'intitulait « Les organes autoconstruits remplaceront-ils la transplantation d'organes ?» Vous avez donc donné la réponse au cours de cette émission. Non. Donc, c'est une séance où on retrouve les textes, les résumés sur le site de l'Académie nationale de médecine, puisque c'est une séance commune Académie nationale de médecine, Académie nationale de chirurgie. Merci à tous les deux d'être venus nous rendre visite au studio de Canal Académie. J'espère à bientôt pour une prochaine émission. Merci.
Merci. À bientôt.